Cher Papa Noël, cela fait quelque temps que je ne t'ai pas écrit. En effet, depuis que je ne crois plus en toi, c'est-à-dire 3 ans, et un Noël où j'avais découvert que ce n'était pas toi sous ce costume rouge, mais cet infâme Valentin Aznar qui était déguisé pour m'apporter mes cadeaux. La supercherie fut vite découverte, tant il titubait, avait une bouteille de gnôle dans la main et avait crié 69 latriques avant de s'effondrer dans la bûche glacée. Néanmoins, comme les temps sont durs, je veux y croire à nouveau. Alors je t'ai fait cette petite liste. J'aimerais un pack idée plus charisme pour nos entraîneurs de Ligue 1. Je trouve ça dégueulasse de nous mettre la pire saison de ces 10 dernières années pile quand je suis au chômage. Un abonnement comme j'aime pour Valentin, juste avant l'enregistrement, il avait une petite faim, il a failli manger son micro, c'est en train de complètement dégénérer. La démission de Gérald Darmanin, des supporters de foot intelligents qui supportent vraiment le foot, un projet de jeu au Stade Rennais, la démission de Gérald Darmanin, un monte-escalier Stana pour Alex, un pied droit pour Warmed Omari, visiblement on lui en a livré deux gauches, et si tu retrouves son QI foot derrière un carton, c'est pas de refus non plus, un passeport basque pour Tom qui va sûrement s'inventer un oncle après cette émission et l'huitième de finale du PSG, un nouveau manteau avec plein de poches pour JB Guégan qui n'a plus de place pour ranger les chèques du Qatar, une victoire à l'Euro avec un pénalty vainqueur de Benjamin Bourigeaud, des chaussures qui courent encore plus vite pour mon ami nommé Kiki de Bondy, un rasoir Braun électrique pour Zach à la puberté fait des ravages, 4 places pour aller à San Siro en février, une lettre E pour mon ami Bilal qui ne sait toujours pas comment écrire son prénom, Harry Kane ne gagne pas un titre avec le Bayern parce que franchement ce serait quand même vraiment très marrant, un disque d'or pour Motas ou au moins d'argent, enfin un CD déjà ce serait cool, un protège-slip imperméable pour un ami qui vit en banlieue parisienne et se fait appeler le Marquis, qu'une des équipes supportées par Flo dans les 163 sports qu'il suit gagne quelque chose, qu'il sorte de cette foutue dépression, une finition décente pour Random Scatomani, la démission de Gérald Darmanin, et pour finir, si tu pouvais faire en sorte aussi que le monde arrête de se barrer en couille un peu partout, ce serait quand même vraiment cool, sinon je vais finir par croire que t'existes vraiment pas et que le Père Noël s'évale, et là on est vraiment dans la merde. Salut à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de l'année. J'espère que chacun a fait sa liste et est prêt à s'éclater le bide dans ces fêtes de fin d'année, comme elles sont bien nommées. Bon, je me doute que j'aurai pas tout ce que j'ai commandé, mais au moins le monte-escalier Stana, ça devient urgent, parce qu'Alex, il est bloqué au rez-de-chaussée, ses voisins le prennent pour un fumeur de crack depuis 2 semaines. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose. Pour m'accompagner aujourd'hui en territoire basque, on finit avec El Capitano Val, celui qui ne jure plus que par Peter the Wise. La seule personne dont on confond le quotient intellectuel et l'IMC, indice en bas de chez vous, c'est plus de 100. Ça va Val?
Écoute, très bien. Alors, on dit Stonewise pour info. C'est ça son petit surnom officiel.
Bah oui, je suis con, je suis pas allé au bout de la vanne, t'as raison.
Ouais.
c'est encore mieux. Bon, après, Stonewise, oui, ça fait un peu Seigneur des Anneaux, c'est pas mal. Et avec lui, le seul de l'équipe qui croit encore au Père Noël et dans un titre européen du PSG avant la fin de l'année, ça va, Zach?
Bah écoute, ça va très bien et je sais pas comment t'as réussi à deviner ma liste de Noël, t'as fait fort. Et la tienne est très complète, je sais pas si j'arriverai à faire mieux.
Ouais, bah j'aurais pas tout, après toi je me doute que les...
Le protège-slip de Marquinhos, il est assez indispensable, hein, on va pas se mentir.
Ouais, il y a pas mal de choses indispensables. Hein. Chacun
peut faire un peu ce qu'il veut. Déjà, la démission de Darmanin, on va pas se mentir, elle est pas mal aussi. Hein.
Ouais, si elle pouvait arriver très vite, ce serait sympa.
Oui, 3-4 fois, j'ai vu.
Je me dis que dans l'eau, les deux pieds gauches de Warmed Omari, il y en a pas mal qui s'en battent les couilles quand même. Hein. Ça me concerne principalement moi. Bon allez les gars, on va filer dans une région où il pleut pas mal, où les mecs se prennent pour un pays et où ça joue pas mal au football. Spoiler alerte, c'est pas la Bretagne. Bienvenue au Pays Basque aujourd'hui, cette région magnifique. On va parler d'un club bien à part dans le football ibérique, l'Athletic Bilbao, son stade mythique de San Mamés, son maillot rouge et blanc, son ancrage régional exacerbé. Sans faire beaucoup de bruit cette saison, les gars, Bilbao est une des très bonnes surprises de Liga. On va revenir comme d'hab sur les ingrédients de cette réussite, mais avant tout, on va parler de l'histoire de cette ville et de ce club qui est particulièrement à part dans le paysage espagnol. Qui veut se lancer, les gars ?
Écoute, je peux y aller. Situons un petit peu Bilbao. Bilbao, c'est une ville qui est située dans le nord de l'Espagne, dans justement le Pays Basque, qui est cette région très marquée par l'indépendantisme, notamment depuis le début du XXe siècle et toutes les actions qui en ont découlé. Alors, le Pays Basque, c'est une région qui est divisée en 7 parties. Alors, il y a le Labour, la Soule, la Basse Navarre, la Navarre, la Biscaye, l'Alava et le Guipuscoa, dont Zach nous a fait un super format court ce mercredi. Et justement, Bilbao s'est situé dans la Biscaye, qui est donc une de ces sept régions. Bilbao, c'est une ville qui contient environ 350 000 habitants, quasiment un million si on prend toute l'agglomération, qui est une ville qui est aujourd'hui très axée sur la culture, notamment depuis l'inauguration du musée Guggenheim en 1997, qui est un musée immense à Bilbao. Je sais pas, vous avez probablement déjà vu des photos de la ville de Bilbao avec ce magnifique musée, qui est l'une des attractions touristiques de la région et qui fait vivre littéralement économiquement la région. Et la ville en elle-même de Bilbao, c'est une ville qui a été beaucoup marquée pendant la révolution industrielle. Par la révolution industrielle, pardon, au 19e siècle, que ce soit économiquement. Alors, il faut savoir que c'est notamment à travers l'exploitation des nombreuses mines de fer de la région que la ville va se développer, et aussi à travers sa proximité avec l'océan, puisqu'elle a grâce à ça développé ses activités portuaires et est devenue un pôle hyper important de l'économie espagnole et européenne. Et évidemment, tout ce développement économique au 19e siècle a aussi entraîné un basculement sociologique, puisque la ville et ses habitants vont évidemment créer et attirer de nombreux postes d'ouvriers. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que va naître le club en 1898, avec l'arrivée de beaucoup de travailleurs anglais, notamment du sud de l'Angleterre, notamment de villes comme Sunderland ou Southampton, avec l'arrivée de nombreux travailleurs qui vont venir travailler sur les chantiers navaux basques. Et c'est là que le club va se créer en 1898, avec justement le nom Athletic Club, qui est donc un nom anglais, ce qui est paradoxal pour un club qui est si indépendantiste et qui fait tant la promotion de la langue basque. Mais voilà, c'est comme il est créé en partie par des travailleurs anglais, d'où son appellation anglophone.
Ouais, donc t'as tout bien résumé, Val, et tu disais que ouais, c'est assez spécial d'avoir un nom anglais pour un club comme Bilbao. Et ce qui est assez spécial aussi, c'est qu'au début, en 1902, l'écusson n'était pas du tout le même aussi. C'était un écusson bleu et blanc, donc des couleurs totalement différentes de ce qu'on lui retrouve aujourd'hui.
Et en fait, un peu à leurs meilleurs ennemis.
Exactement.
Exact, c'est ça. Et en fait, bah, y a pas mal de changements qui vont avoir lieu dans les années 1910, et des changements qui, en fait, on va les retrouver encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc ces changements, ça va être le passage à un maillot rouge et blanc, celui qu'on connaît bien, donc avec les rayures rouges et blanches, mais aussi l'abandon.
Ouais. Je pose une mini question. Est-ce que le maillot rouge et blanc, ça a un lien avec l'immigration des supporters, enfin des ouvriers anglais, comme les couleurs de Southampton, de Sunderland et tout, ou pas du tout?
Bah, c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu avais l'anecdote, Zach. Mais,
non, moi, il était en train de me poser une colle.
Ah, ben voilà. En fait, initialement, les couleurs bleues et blanches étaient dues au fait que c'était un immigré anglais qui était venu à Bilbao pour travailler, qui avait participé à la création du club et qui, lui, venait à la base de Blackburn, qui joue en noir et blanc. Et en fait, il avait été missionné en 1910, je crois, pour ramener d'Angleterre, à l'occasion d'un voyage qu'il avait fait dans son pays natal, des nouveaux maillots. Et en fait, il y a eu une histoire. Alors, l'histoire est un petit peu floue sur pourquoi il n'a jamais réussi à trouver ses maillots de Blackburn, mais en tout cas, en fait, il s'est retrouvé à Southampton, et c'est comme ça qu'il s'est dit, en fait, merde, j'ai pas de solution pour rapporter des nouveaux maillots, donc je vais prendre ceux qui sont sur place. Et il a rapporté les maillots de Southampton, et c'est à partir de cette année-là, justement, que le club a adopté les maillots à traits blancs et rouges.
Magnifique. Je tiens à préciser que cette question et ce lancement n'étaient même pas préparés, comme quand on finit par être un peu rodé.
En tout cas, la conclusion, c'est prends ça, Gérald Darmanin, avec cette super histoire d'immigration.
Non, mais lui, Gérald, les immigrés anglais, ça va, hein?
Ouais, ça va. C'est vrai que c'est pas les Anglais. C'est pas les Anglais, ouais. Le problème.
Donc, conseil à mes amis de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous arrivez, dites hello, how are you? Jacques, je te laisse reprendre le fil d'histoire du club.
Non, et en plus, ce qui est assez drôle pour revenir sur cette histoire d'immigration, c'est que Val, tu le disais, c'est des immigrés anglais qui ont apporté le foot du coup au Pays Basque et à Bilbao. Et Bilbao, en 1911, va tout simplement décider d'abandonner l'idée de jouer avec des joueurs étrangers pour uniquement évoluer avec des joueurs basques. Et donc, une politique qu'on va voir existe encore aujourd'hui, mais qui est quand même un peu assouplie. Et autre chose qu'on a encore aujourd'hui, c'est le stade de San Mamés, qui ouvre ses portes en 1913. Alors, il a été rénové depuis. Val, je pense que tu en parleras un peu plus tard. Et donc, le stade est inauguré en 1913 pour une équipe qui d'abord évolue à un niveau amateur jusqu'aux années 20. En 1926, le club va recruter ses premiers joueurs professionnels et intégrer la Liga en 1928, qui à l'époque était une ligue composée de seulement 10 équipes. Donc c'était très peu par rapport à aujourd'hui.
Et toujours avec cette politique, évidemment, d'avoir que des joueurs basques à cette époque-là.
Ouais, exactement.
Alors, ce qui est paradoxal, justement, alors je reviens juste sur l'anecdote que tu viens de donner, c'est que la décision de faire appel uniquement à des joueurs basques n'est pas du tout liée aux questions indépendantistes à la base. C'est suite à un match qui avait eu lieu en Copa del Rey en 1911, dans un match dans lequel le club de Bilbao avait été accusé d'aligner des joueurs qui étaient non sélectionnables. Et ben, le club s'était vexé à cause de cette accusation, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de sélectionner uniquement des joueurs issus de leur région et donc qui sont sélectionnables. Mais à la base, c'était pas du tout des questions identitaires.
Okay. Donc, voilà. Quand on peut le croire aujourd'hui. Vas-y, Zach, je te laisse reprendre le fil avant ta petite chronique.
Yes, et bah là on arrive dans les années 30, qui finalement correspond un peu à l'âge d'or de l'Athletic, avec plusieurs doublés, donc par exemple en 1930, en 1931. Et donc on a une équipe qui domine vraiment le football espagnol à cette époque. Il y a par exemple un score, moi, qui m'a assez marqué, c'est la plus large victoire de l'histoire du club, un 12-1 contre le FC Barcelone. J'espère que le PSG parviendra à en mettre un de ce type-là un jour. Et donc là, on a une longue période de gloire qui semble être promise à l'Athletic Bilbao. Sauf qu'il y a un événement qui va arriver en Espagne, c'est la guerre civile en 1936. Et ça va pas mal changer le cours de l'histoire du club et de l'Espagne tout entière.
Et justement, Zach, je te redonne la main tout de suite après le petit générique pour ta chronique Per Castor sur justement comment Bilbao s'est débrouillé pendant la période franquiste en Espagne.
Du coup, Zach, avant de parler de Bilbao, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu le contexte de la guerre civile en Espagne ?
Ouais, bien sûr, Val. Je vais essayer d'être le plus synthétique et complet à la fois. Alors, pour rappel, la guerre civile espagnole, c'est un conflit qui oppose les nationalistes de droite et d'extrême droite aux forces républicaines de gauche et d'extrême gauche de 1936 à 1939. Et durant ces 3 ans de guerre, Franco reçoit le soutien de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Les troupes franquistes finissent par triompher le 26 mars 1939. Une dictature voit alors le jour au prix de 400 000 morts.
Et comment la guerre a été vécue justement depuis le Pays Basque ?
Eh bien, durant la guerre, le Pays Basque se range du côté des républicains, avec qui ils obtiennent un statut de province autonome. Mais la défaite républicaine face à Franco voit la région subir des crimes de guerre horribles. Le plus célèbre reste le bombardement du village de Guernica par la légion allemande Condor, envoyée par Hitler en aide à Franco et illustrée par Picasso en 1937. En réaction à cette violence, plusieurs organisations illégales et armées se forment, notamment l'Euskadita Askatasuna, ou autrement dit ETA, revendiquant un pays basque socialiste et indépendant. Le groupe a mené des actions terroristes tout au long de la dictature. Le plus important d'entre eux est l'assassinat de Luis Carrero Blanco en 1973, alors bras droit de Franco.
Et du coup, pour revenir sur l'aspect sportif, est-ce que tu peux nous détailler ce qui s'est passé du côté de l'Athletic Club ?
Ouais, bah, suite au push de Franco, tout change. L'équipe de Bilbao est dissoute et la Liga est suspendue jusqu'en 1939. Les effets de la guerre civile ont affaibli l'Athletic sur le plan social, économique et sur le terrain. Cette reconstruction se fait qui plus est sous le nom d'Atlético de Bilbao, en application d'un décret mis en place par Franco en 1941 et interdisant l'usage d'autres langues que le castillan en Espagne. Alors malgré ce changement de nom, le club est loin d'être dans le viseur du régime franquiste et bien au contraire. Comme l'explique Alejandro Quiroga, auteur du livre European Historic Quarterly, le régime militaire, je cite, fait la promotion d'une narration nationaliste associée au football qui permet alors d'augmenter l'identification des Espagnols à la dictature. Et dans cette stratégie, le club de Bilbao répond parfaitement aux critères recherchés par la dictature. Sur le terrain, des joueurs virils et rugueux. La dictature, d'ailleurs, présentait le basque comme le caractère espagnol original et voyait en l'Athletic l'incarnation des valeurs hispaniques masculines, c'est-à-dire la virilité, l'impulsion et la fureur. C'est alors avec cette image que Bilbao retrouve peu à peu les sommets du football espagnol, en remportant une Liga en 1943 et 3 Coupes d'Espagne de suite entre 1943 et 1945.
Ouais, un retour au plus haut niveau qui est assez rapide. Tu me disais pourtant que l'équipe avait totalement été abattue après la guerre. Est-ce qu'il y a une raison à ce retour au sommet ?
Bah en fait, après la guerre, le club décide de se reconstruire en accordant sa confiance à la jeunesse. Une stratégie qui paye très rapidement et qui restera appliquée les décennies suivantes. On a par exemple une section moins de 18 qui est créée en 1960 et le centre de l'ESAMA, la première académie de football spécialement construite dans le pays, qui est conçue en 1969 puis inaugurée en 1971. Bilbao, encore aujourd'hui, compense l'absence de recrutement de joueurs étrangers au Pays Basque par une formation optimale des jeunes joueurs de sa province.
D'accord, donc l'Athletic a bel et bien su trouver les moyens pour se relever de la guerre à la dictature. Par contre, Zach, on est un peu long et je pense qu'Alex là commence à s'endormir tranquillement. Donc est-ce que tu peux nous résumer la fin de la dictature pour l'Athletic Bilbao?
Ouais, excuse-moi, pauvre Alex. Sportivement, plutôt bien. Le club remporte notamment un autre championnat d'Espagne en 1956 et six Coupes d'Espagne entre 1950 et la fin de la dictature en 1975. Alors, suite à la mort de Franco, le club reprend son nom d'origine, l'Athletic Club, et comme un symbole de la fin de l'oppression franquiste, le drapeau basque est déployé par les capitaines José Ángel Iribar et Ignacio Cortabarria au centre du terrain, avant un match opposant la Real Sociedad et Bilbao.
Ok, merci Zach pour cette chronique super intéressante sur le franquisme. Du coup, on s'est arrêté à la mort de Franco en 75. C'est quoi l'événement majeur qui suit pour Bilbao?
Eh ben, y a plusieurs événements importants qui vont suivre dans l'histoire du club. D'abord, sur le plan sportif, c'est qu'il va y avoir une finale européenne face à la Juventus en 1977, qui est malheureusement perdue pour les Basques à la différence de but. Et après, il y a un autre événement aussi sur le plan politique, c'est que quelques jours après la mort de Franco seulement, le club va à nouveau retrouver son nom d'Athletic Club, qui avait été remplacé par Atlético de Bilbao sous Franco, car il avait été interdit de porter des noms d'origine autre que le castillan. Et donc, après ça, est arrivée la finale face à la Juve, et ce qui reste finalement l'un des derniers exploits en date de Bilbao, car la suite, on va le voir, c'est beaucoup plus mitigé. Après, il y a un peu une traversée du désert. Donc, comme je le disais avant, on avait un peu l'âge d'or de Bilbao avant la guerre civile et qui a totalement tout stoppé. Et finalement, là, il y a une grande période sans trophée. Alors Val, je sais pas si tu as des petits trucs dessus.
Ouais, bah, non, y a une, je sais
Franchement.
qu'il y a une coupe d'Espagne dans les années 80, mais les années
Ouais.
90 vont être la première décennie du club sans titre majeur, et qui va même être une décennie assez compliquée. Enfin, toute la période des années 90 jusque 2006-2007 va être une période assez compliquée pour le club, notamment à cause aussi de plusieurs événements sportifs qui vont avoir lieu. Je pense notamment à la création de la Première Ligue, la création de la Ligue des Champions et l'arrêt Bosman, qui vont être évidemment trois événements majeurs dans l'histoire du football européen, puisque ça va être la démocratisation aussi du marché des transferts, etc. Et on sait, comme l'a expliqué Zach, que évidemment le club est très marqué par l'indépendantisme et qu'il décide de recruter seulement des joueurs issus de la région. Et c'est d'ailleurs en réaction à cet arrêt Bosman que le club va alléger un petit peu ses conditions de recrutement. Désormais, pour qu'un joueur puisse jouer au club, il doit. Alors, il y a trois conditions spéciales. Il y a être un joueur né au Pays Basque ou de parenté, donc parents ou grands-parents basques. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Bixente Lizarazu a pu jouer au club. Avoir joué pour plusieurs années au Pays Basque, donc dans un autre club, comme par exemple la Real Sociedad, ou avoir été formé à la cantera du club depuis l'âge de 10 ans environ, même sans parenté basque. Donc, ça, c'est le cas d'Iñaki Williams et de Nico Williams. Donc voilà, c'est des conditions qui vont s'alléger et qui vont permettre au club aussi de se maintenir à très haut niveau et de rester l'un des trois clubs. Je ne sais pas si on l'a encore dit, c'est la stat qui sort partout, mais voilà, rester l'un des trois clubs de Liga qui n'est jamais descendu en deuxième division de l'histoire avec le Real et le Barça. Et c'est grâce à cette ouverture aussi que le club va pouvoir se maintenir à ce niveau-là.
Ce qui n'est pas une performance, ce qui est pas une performance dégueu de jamais être descendu.
Oui,
C'est quand même
91 ans, je crois, si je dis pas de bêtises.
assez solide. Est-ce que les gars, on peut se rapprocher un peu de l'époque contemporaine qui nous intéresse et voir comment bosse ces dernières années Athletic Bilbao et comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe en ce début de saison avec ce bon début de saison? Est-ce que c'est lié à leur taf ou est-ce que c'est un heureux hasard?
Juste pour avant de basculer sur l'époque très moderne, je m'étais arrêté à 2007, allez, fin des années 2000. Il faut quand même noter l'arrivée en 2010 de 2010, 2010 ou 2011, je ne sais plus, j'ai un trou, mais de, 2011. De, 2011, voilà, de Marcelo Bielsa, évidemment, qui va rester même pas un an et demi au club, qui au début va avoir des débuts un petit peu difficiles le temps que les joueurs s'acclimatent, mais qui très rapidement va marquer l'histoire du club sur une période très courte, notamment parce qu'il va proposer un jeu qui est absolument dingue. Il y a un match qui est peut-être l'un des plus beaux matchs de la décennie 2010, qui est ce match qui a lieu le 7 novembre 2011 contre le Barça de Guardiola. Zach avait sa première dans le lait qui poussait à l'époque, mais c'est un match où, enfin, c'était absolument dingue le niveau de jeu qu'il y a eu sur ce match-là. C'était sous la pluie à Saint-Mamès, dans des conditions un peu dantesques, et il y a un niveau de jeu sur ce match-là. Le ballon sort jamais des limites du terrain. Il y a un nombre de passes, de redoublements d'action qui est absolument monstrueux. Et c'est un match qui reste un petit peu dans l'imaginaire collectif des supporters de foot en général, et évidemment des supporters de Bilbao. Et c'est peut-être la marque de Marcelo Bielsa à Bilbao, avec peut-être une masterclass qu'il avait fait contre Manchester United en huitième de finale de Ligue Europa, puisque cette année-là, l'Athletic Club, va aussi aller jusqu'en finale d'Europa League en sortant le CSKA, Man U, Schalke, Sporting, et en s'inclinant face à l'Atletico seulement en finale. Voilà, une année qui a été hyper importante dans l'histoire récente du club, parce que Marcelo Bielsa, et parce qu'il y a eu un impact sur le jeu qui était assez dingue.
Il est encore bien dans les mémoires du club, et c'est vrai que ce match, il est dingue. D'ailleurs, je crois qu'il est dispo en replay, hein, facilement sur internet, vous pouvez le trouver s'il y en a qui sont curieux.
Ouais, ouais.
Et c'était l'époque où
Footballia, je crois, il doit être dispo. Ouais.
C'était l'époque où la Liga était encore le meilleur championnat en Europe, et qu'on prenait plaisir à regarder ce championnat qui est plus compliqué aujourd'hui. Du coup, après cette période Bielsa, qu'est-ce qui se passe pour en arriver à peu près aux années 2020?
Jules, la suite, c'est que Ernesto Valverde, dont on va reparler plus en détail, arrive au club en 2013 et va apporter une forme de régularité à cette équipe, avec des performances qui vont les mener jusqu'en Europe chaque année. Donc des championnats qui vont se terminer à chaque fois entre la 5e et la 7e place.
Et, c'est un petit peu le stade rennais basque, finalement.
Exactement, on peut pas viser beaucoup plus haut, mais parfois ça peut aller un peu plus bas, comme on va le voir, parce qu'après Valverde, ça a été un peu plus compliqué. Mais s'il y a aussi une chose à noter de son deuxième passage à Bilbao, en tant qu'entraîneur, c'est qu'il va surtout gagner un trophée avec le club, et pas contre n'importe qui, puisqu'il remporte une Super Coupe d'Espagne en 2015 face au Barça. Et alors Val, tu parlais de match mémorable, on a quand même eu un 4-0 à San Mamés contre le Barça. Donc franchement, ça, les supporters peuvent s'en souvenir. Et donc c'est ce qui restera comme le moment le plus marquant de Valverde au club, jusqu'à son départ le 30 juin 2017, où là on va commencer à avoir une petite période d'instabilité, finalement jusqu'à son retour en 2022.
Pas absurde qu'après ce 4-0 contre le Barça, ça leur a donné des idées pour aller le chercher.
Il y a un truc qu'on n'a pas précisé sur le club, c'est peut-être son palmarès. Il faut savoir, alors on l'a précisé que c'est un club qui n'a jamais descendu, etc. Il faut savoir que c'est quand même le quatrième club qui a remporté le plus de championnats dans l'histoire du foot espagnol. Ils en ont remporté 8, et surtout ils ont remporté 23 Coupes d'Espagne, ce qui est énorme, et 3 Super Coupes d'Espagne aussi, dont la dernière qui a eu lieu en 2021. Non, ça c'est la Coupe d'Espagne en 2021, et je crois qu'ils gagnent une Super Coupe l'année d'après, en éliminant le Real et le Barça dans un tour en Arabie Saoudite, je crois, ou en Afrique du Nord, je sais plus où exactement. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je vous laisserai vérifier. Mais voilà, c'est aussi un club qui a un énorme palmarès, et qui a un palmarès qui varie aussi en fonction des élections des présidents et des directions, parce qu'on l'a pas précisé non plus, mais c'est aussi un des derniers clubs qui a un système de socios. Aujourd'hui, il y a pas de 43 000 socios qui détiennent le club et qui élisent tous les 4 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, un nouveau président, et chaque président en fait vient avec littéralement un programme, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va peut-être pouvoir basculer sur la nouvelle direction, puisque la dernière élection a eu lieu en juillet 2022, donc l'année dernière, C'est John Ugarte qui a été élu et il avait promis de se une de ses promesses de campagne, c'était de ramener une nouvelle fois Ernesto Valverde au poste d'entraîneur s'il était élu. À l'inverse, il y avait un de ses concurrents qui avait promis de faire revenir Marcelo Bielsa. Bielsa qui avait déjà d'ailleurs présenté un programme de plus de 600 pages avec des rapports sur tous les joueurs, etc. Un truc de malade, alors qu'il n'était même pas sûr d'être embauché par le club. Je pense qu'il s'était farci 500 matchs de l'Athletic Bilbao juste pour pouvoir faire ce rapport, grand fou qu'il est. Mais donc voilà, il faut comprendre aussi que le club dépend des différentes périodes électorales qu'il y a, puisque les projets peuvent varier assez régulièrement. Donc
Et ce qui met en valeur, du coup, justement, le nombre de titres qu'a ce club-là, avec entre son fonctionnement qui est un petit peu particulier et quand même, enfin, on le rappelle. Une nouvelle fois, je pense qu'on a plusieurs fois le rappelé dans l'épisode, mais le fait que ne sont autorisés à jouer que des joueurs basques et assimilés, etc. Et c'est quand même
Bah,
dingue de
c'est ça
gagner
qui est
autant de
dingue, ouais.
titres en se, entre guillemets, mettant des règles tout seul, quoi. Justement, Val, du coup, c'est transition parfaite. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, du coup, de ce nouveau président qu'a ramené Valverde et comment un peu est dirigé le club, quelle est la ligne directrice du club?
Ouais, donc John Uriarte, qui a donc été élu en juillet 2022. Alors, on s'excuse pour les prononciations de noms basques, parce que c'est toujours plus compliqué à prononcer. Donc, s'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Mais voilà, John Uriarte, UGIARTE, moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé, qui est un homme qui est né à Bilbao, qui est un financier qui a commencé sa carrière dans les banques à Londres, notamment chez Merrill Lynch et Morgan Stanley, avant de revenir en 2009 dans sa région natale pour se lancer justement dans l'entrepreneuriat et créer une entreprise qui s'appelle Ticketbis, qui est l'équivalent de Viagogo à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, qui est une plateforme de revente de billets pour des événements sportifs, musicaux, etc. Qui a plutôt bien fonctionné puisqu'il l'a revendu quelques années plus tard à eBay. Et puis à partir de 2018, il retourne dans le secteur de la finance en créant All Iron Ventures, qui est une société de capital risque avec laquelle il investit dans l'immobilier, l'hôtellerie, la technologie. Et voilà, évidemment, comme c'est un homme du cru qui a réussi, je pense que c'est comme ça qu'il a eu la légitimité pour se présenter aux élections de Bilbao. Et donc, il a été élu l'an passé. Avec lui, il y a un autre homme qui est secrétaire général du club depuis 2006. Alors lui, pour le coup, il n'est pas dépendant des différents mandats, visiblement, qui s'appelle John Barastegui, qui s'occupe plutôt de tout l'aspect administratif. Et voilà, il est secrétaire général, hein, donc c'est tout l'aspect administratif et financier aussi, qui a d'ailleurs donné quelques informations récemment sur la situation financière du club, en disant qu'ils étaient évidemment dans le besoin d'aller augmenter la capacité de générer des revenus. Évidemment, c'est un club qu'il faut bien comprendre qui ne dépense pas énormément. Toutes ces dépenses vont dans le système de détection. Alors, il y a l'achat de quelques joueurs qui sont issus de la région du Pays Basque, mais sinon, c'est essentiellement dans la détection de jeunes joueurs et dans le centre de formation. Ce qui n'empêche qu'ils ont quand même besoin visiblement d'augmenter la capacité de générer des revenus. C'est comme ça qu'il l'a présenté en tout cas pour mettre une plus grande stabilité économique au club. Il disait qu'il n'y avait pas énormément de problématiques, mais qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de marge de manœuvre. D'ailleurs, le club est en déficit cette année de 6 millions d'euros. Donc voilà, ils estiment que pour être viable et solvable, il faut comprendre que c'est quand même un des clubs les plus solvables d'Espagne, ils ont besoin de générer des nouveaux revenus. Mais voilà, ça c'est pour
Sachant
donc.
que Val, je sais plus si tu l'as précisé, machin, pour ceux qui nous écoutent, mais Uriarte, le nouveau président, a une petite quarantaine d'années. Ce qui est aussi étonnant dans le paysage footballistique européen, c'est que c'est un très jeune président.
Ouais, exactement. Ouais.
Et Val, tu parlais aussi de la notion de stabilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Uriarte, s'il a choisi Valverde et pas Bielsa, c'est qu'en fait, il s'était basé sur un programme où il avait annoncé vouloir s'appuyer sur des membres du club qui avaient bien fonctionné les années précédentes. Et c'est aussi pour ça qu'il a insisté sur le fait que Valverde revienne au club. Et c'est aussi en partie pour ça qu'il a été élu. Et donc, à partir de là, l'idée d'améliorer les structures dans la continuité est apparue.
Et du coup, les gars, on va avoir par rapport à nos autres épisodes de Poteau Carré, on va aller un petit peu plus vite sur l'environnement sportif qui entoure Uriarte, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins besoin de cellules, de recrutement, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même des mecs dont on peut parler dans le sportif qui sont importants dans ce club-là où il n'y a pas grand-chose de notable et c'est Valverde qui a les clés du camion?
Ouais, bah écoute, il y a un homme qui se détache, c'est le directeur sportif, Mikel González. qui assure à la fois la direction de l'équipe des sections masculines et féminines. Et il est chargé, en gros, de superviser la mise en œuvre de la stratégie du département des sports, donc tout ce qui va être équipe première, mais alors aussi le centre de formation de l'ESAMA.
C'est un rôle classique aussi, de directeur sportif.
Ok, donc c'est un mec qui est important dans l'organigramme du club, quand même.
Ouais, tu ne l'as pas précisé, mais du coup, il a été aussi au centre de formation d'Eibar. Il faut savoir qu'Eibar et Alavés, c'est des villes du Pays Basque. Hein. Donc c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien l'écosystème footballistique du Pays Basque. Et donc, qui est adapté à ce type de poste-là. Hein. C'est là-dessus qu'il a été recruté. Et il y a une anecdote qui est assez marrante, d'ailleurs, c'est qu'à la base, il a été recruté pour être directeur du développement du club et non directeur sportif. Donc, qui ne sont pas des postes exactement similaires. Mais en fait, donc directeur du développement, parce qu'à la base, c'était un autre gars qui s'appelle Carlos Avignac, qui était promis pour ce poste-là, en tout cas dans la campagne électorale de Jon Ullarte. Et en fait, il s'avère que ce Carlos Avina a eu des propos un peu sexistes et racistes, notamment dans un tweet où il avait comparé des femmes noires en maillot de bain à des hippopotames. Autant vous dire que c'est pas passé auprès des fans, donc Jon Ullarte l'a rapidement écarté de sa liste. Et c'est comme ça que Miquel González est monté en tant que directeur sportif. Et du coup, il a fait venir un autre gars qui s'appelle Victor Moreno, avec qui il avait travaillé à Alavés aussi en tant que il le fait venir en tant que directeur du développement, donc le poste qu'il était censé occuper à la base. Donc voilà, encore un mec qui connaît bien l'écosystème footballistique du Pays Basque. Et en revanche, le petit Carlos Avigna a retrouvé un poste, évidemment, en France, à l'AS Monaco. Voilà.
Bien. Ils ne sont pas très regardants sur le côté social, alors qu'à Bilbao, c'est assez important. Hein. On l'a pas trop dit, etc. Mais c'est quand même un club qui est quand même très proche du peuple, etc. Et, tu l'as un peu dit dans l'histoire, de toute façon, on est quand même sur une zone qui est très ouvrière. Donc, comme tous ces clubs-là...
Oui, et puis les sociaux, c'est tout. Ils ont un droit de regard, enfin, ils ont un vrai droit de décision là-dessus. Donc...
Et du coup, les gars, en partant du directeur sportif, on arrive très vite à celui qui, grâce à Ullarte, est revenu au club pour la troisième fois, qui est évidemment Monsieur Ernesto Valverde. Et on va revenir, les gars, un peu sur son parcours pour savoir de qui on parle. Et puis après, on aura la chance d'écouter Ruben, qui est fondateur SCM du compte Ligue Actu, qui nous parlera mieux du personnage et de son style de jeu. Mais je vous laisse commencer un petit peu pour revenir un peu sur le parcours bête et méchant de ce coach.
Au-delà d'être un bon entraîneur, déjà, il faut préciser que c'était aussi un très bon joueur. Enfin, il a quand même une belle carrière avec un passage à l'Espagnol Barcelone, notamment sous les ordres de Javier Clemente. Il va aussi également évoluer au Barça. Donc, il a eu une carrière en fait de joueur assez similaire à sa carrière d'entraîneur. Et finalement, avant d'arriver à l'Athletic Bilbao aussi en tant que joueur. Et c'était un attaquant assez prolifique parce qu'à Bilbao, il a quand même marqué 50 buts en 188 matchs. Et la carrière d'entraîneur, finalement, elle va être aussi assez liée à l'Athletic Bilbao, car il va y monter les échelons petit à petit. Donc, il réalise d'abord sa formation d'entraîneur à l'Athletic à partir de 1997 avec l'équipe de jeunes du club. Et aussi, il va entraîner l'équipe B pendant 2 ans pour finalement arriver en tête de l'équipe première en 2003. Donc, il a vraiment eu la carrière d'un entraîneur qui gravit les échelons un par un. Et en fait, cette carrière qui s'annonçait assez stable pour Valverde du côté de Bilbao, elle va partir un peu dans tous les sens pendant quelques années, parce qu'on a des passages assez courts, plus du côté de l'Espagnol. On a aussi 2 passages à l'Olympiakos, à Villarreal entre-temps, puis à Valence. Mais donc, toutes ces escapades pour finalement atterrir où ? De nouveau du côté de Bilbao en 2013, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, à partir de là, il va cette fois s'installer sur le banc quand même 4 ans. Et comme on l'a dit tout à l'heure, stabiliser le club à un niveau convenable à la 8e place.
Il faut savoir que c'est un mec qui... Alors, en France, on en a une image d'un mec assez simple, sans trop de charisme, et qui, sportivement, est plutôt... comment dire ? Lésé par son passage au Barça, qui n'a pas été si horrible que ça, parce qu'il fait quand même une première saison où il gagne le championnat avec 36 matchs sans défaite, je crois. Évidemment, il est lésé par les...
C'est ce que j'allais dire. En fait, en France, il jouait un peu d'une réputation pas ouf, parce qu'en fait, il ne s'entendait pas avec Messi sur la fin de cette période du Barça. Et
surtout, il se prend les 2 remontadas. Il se prend les 2 remontadas contre la Roma et Liverpool. qui lui ont fait beaucoup de mal, en tout cas sur son image à l'international, et aussi parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, le groupe l'a lâché et que tout ce qu'il voulait proposer en termes de jeu, enfin, c'était impossible avec un groupe qui te suit plus. Mais il faut savoir que en Espagne, c'est un mec qui est considéré comme un mec véritablement brillant, hyper cultivé, etc., qui a une vraie connaissance du jeu et du foot. Et voilà, c'est une image qui est complètement différente que celle que nous on a en France.
Bah parce qu'on a un peu l'image internationale de ouais, c'est deux remontadas comme tu disais, mais à part ça, en Liga, il roule sur le championnat les deux saisons où il est au Barça.
Ouais, exactement.
Bah, les gars, ce que je propose, c'est que du coup, on a un peu plus compris le parcours de Valverde avant qu'il revienne là, du coup, à Bilbao. Je propose que pour en savoir un peu plus, on écoute Val qui allait parler avec Ruben du compte du coup Ligue Actu, qui va nous parler un peu plus en détail de Valverde et son style.
Salut Ruben, merci beaucoup d'être avec nous. Du coup, on va parler avec toi évidemment de l'Athletic Club. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'avis général qui ressort en tout cas de cette première année avec Ernesto Valverde au club ?
C'est un entraîneur qui, de manière générale, en ce moment, surtout cette saison, bah, plaît beaucoup parce que il est radicalement différent de ce qu'on a pu voir de l'année dernière. Moi, cette année, je vois un entraîneur qui est beaucoup plus dans la confiance et dans la nécessité de garder un groupe solide et un 11 solide, particulièrement parce que l'année dernière il y avait toujours ces petits changements parfois dans les 11 qui paraissaient pas être grand chose et qui bah, malheureusement venaient un peu casser la dynamique, alors que cette saison on a une équipe qui bah, quasiment de journée en journée est la même, avec un 11 qui se répète, un 11 qui même dans les changements est globalement le même, et c'est vrai qu'au final les joueurs certes finissent fatigués souvent les matchs, mais en tout cas je pense que c'est un point qu'il faut mentionner quand on parle de Valverde, c'est qu'il a réussi enfin à trouver ce 11 type, son titulaire, ce qui même a manqué à l'Athletic depuis, même avant lui, sur les dernières années. On voit bien que cette année il y a un 11 titulaire en particulier, et c'est quelqu'un qui en plus de ça est en train aussi de donner la confiance à pas mal de jeunes. On sait que dans un club comme l'Athletic, évidemment, c'est important parce que il y a un recrutement qui est limité, il y a traditionnellement une grande place qui a été donnée au centre de formation, donc il faut savoir en tirer quelque chose, et je trouve qu'il le fait à merveille cette saison. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, on sent a pris de l'expérience aussi, même vis-à-vis de ses équipes, en tout cas la connaît maintenant, mais non pas seulement dans ses joueurs, mais même dans son âme, dans son identité. Je pense que ça, c'est une vraie différence avec ce qu'on a pu voir d'autres années, même dans son précédent mandat en tout cas. Donc voilà, moi il y a beaucoup de points positifs en tout cas, et le fait qu'il a réussi à redonner cette confiance là au groupe en particulier, cette façon de pouvoir être compétitif, je pense que c'est le point qu'on peut mentionner particulièrement, parce que moi c'est ce que j'en ressortirais. Ouais.
Et tactiquement du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, que toi qui regardes les 98% des matchs je pense, nous parler un petit peu de comment il arrive à faire évoluer son équipe?
Et bah disons que ouais, c'est un Valverde, c'est quelqu'un qui est toujours très fidèle au 4-2-3-1, ça bouge pas trop. C'est quelqu'un qui a vraiment mis l'axe, en tout cas sur sa troisième étape athlétique depuis l'année dernière, qui a mis l'axe vraiment sur le contrôle du milieu de terrain. Il y a beaucoup de matchs l'année dernière qui ont été mal négociés parce qu'on avait un milieu de terrain qui était relativement faible, et on le sentait parce qu'il voulait accorder l'importance, que ce soit offensivement ou défensivement, il voulait que le milieu de terrain soit un peu le... C'est le cas dans beaucoup d'équipes aussi, mais c'était pas forcément le cas avant Athletic, soit le centre de beaucoup d'équipes, de beaucoup d'actions, que vers l'avant il y ait ces joueurs qui soient là pour à la fois faire la transition attaque et défense, et en même temps je trouve que c'est une équipe qui utilise beaucoup plus le cœur du jeu, parce que avant on avait un Athletic qui était, malheureusement c'est un peu triste de le résumer comme ça, mais qui était beaucoup écarté sur les ailes, centré, et puis tenté de reprendre de la tête d'une reprise, alors que maintenant on voit aussi qu'il y a une vraie importance qui est accordée au milieu de terrain, au poste de milieu offensif, alors qui avant était occupé par Mouniaïd, mais qui malheureusement maintenant est un peu plus a pris de l'âge aussi, et puis est un peu plus un peu moins durant physiquement. Maintenant il y a un super Boyan Sunset qui fait le taf au milieu, et on voit que c'est une vraie caractéristique, c'est que le poste de 10 et même le milieu de terrain un peu plus bas soit vraiment le cœur du jeu, aussi bien pour décaler sur les ailes que pour creuser dans l'axe. Donc ça c'est vraiment le cœur du jeu, et puis après il y a quand même tout un travail qui est fait au niveau des ailes, parce qu'on a des profils, Iñaki et Nico Williams en particulier, qui sont évidemment des deux joueurs très rapides, Nico peut-être un peu plus technique qu'Iñaki, Mais globalement, on voit quand même que ce sont deux joueurs qui arrivent à faire la différence et qui de plus en plus passent aussi par l'axe. Donc je dirais que le jeu qu'il essaie de construire, en tout cas, est beaucoup plus basé par le passage dans le centre, vers l'axe du terrain, qu'auparavant où c'était voilà, vraiment beaucoup centré, beaucoup de jeux sur les ailes. Et même les ailiers, d'ailleurs, en ce sens-là aussi, ont parfois, voilà, dans leur montée aussi, certaines places où on les revoit parfois se remettre dans l'axe. Et même Gourosseta, qui est quand même le numéro 9 de cette équipe, redescend beaucoup aussi pour justement participer au jeu. Donc voilà comment je pourrais un peu définir ça.
Pour parler un petit peu de la direction, quel est le premier bilan que tu peux en tirer après aller un an et demi de mandat?
Eh ben, disons que c'est une direction qui a quand même remis le club globalement sur les bons rails après les 3, quasiment 4 ans de Aitor Elizegui qui malheureusement ont fait beaucoup de mal au club aussi bien économiquement que sur les résultats. Il n'y a pas eu forcément pour l'instant de recrue majeure, on l'a dit depuis un an et demi. Il y a eu le retour d'André Herrera qui évidemment était quand même un vrai plus au milieu, même si c'est un joueur qui est voilà, physiquement assez limité. Quand il est au top, au niveau du sur le terrain, il n'y a pas forcément d'équivalent, et ça c'est un vrai plus. Donc on voit aussi que, et ça c'est vraiment un point positif, c'est que au niveau du recrutement, du scouting, l'Athletic avait perdu beaucoup d'influence dans le Pays Basque, parce qu'il y a évidemment un autre club qui carbure aussi dans cette région, c'est la Real Sociedad. Et il faut se dire que pendant les 3 ans et demi, 4 ans de Souhaiter Elizegui, qui était l'ancien président, le club s'est fait complètement dépasser sur ça, et on voit bien qu'il y a eu vraiment le retour d'une structure, en tout cas de scouting, de recrutement, avec Michael González, qui est le directeur sportif, on va dire, directeur général, qui vraiment fait un super boulot autour de ça. Et voilà, on voit bien qu'il y a de plus en plus de jeunes, en tout cas, qui sont dans les radars à nouveau de l'Athletic, qui sont suivis et qui s'entraînent avec les équipes de jeunes. Et voilà, même de manière générale, autour de Yoenor Uriarte, le président qui a été élu donc en juin 2022, il y a aussi toute une équipe de professionnels. Voilà, j'ai plus forcément le nom du personnage en tête. C'était un ancien responsable de performance, j'ai oublié son nom, qui était chez l'équipe de cyclisme UAE, je crois, de Pogacar, qui a signé du coup cet été à l'Athletic, pareil. Donc on voit bien qu'il y a vraiment, au-delà du sportif, au-delà du recrutement, il y a aussi beaucoup de travail qui est fait à l'interne économiquement pour même voilà évaluer les performances des joueurs, et ça je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien. Et puis voilà, clairement il y a un message qui est assez clair, c'est que il y a eu une franchise, c'est que l'Athletic ne pourrait pas, en tout cas vu les salaires qui sont donnés aux joueurs aujourd'hui et même vu ce que le club génère, on va dire, de point de vue économique, est-ce qu'il encaisse, sans retour en qualification européenne, ce sera compliqué de maintenir une telle allure budgétaire, parce que mine de rien, c'est un club qui paye quand même beaucoup ses joueurs, et bien qu'il y ait un gros budget, il faut aussi qu'il y ait des résultats à un moment, et il faut une qualification européenne qui, en tout cas, serait une solution à beaucoup de ces mots-là, quoi.
Bon, merci à nouveau du coup Ruben du compte, on le rappelle, Ligue Actu, on vous le mettra hein, dans nos réseaux sociaux pour que vous puissiez aller le suivre. Si vous voulez regarder la Liga de loin, c'est vraiment, c'est certainement le meilleur compte si vous voulez avoir une vision générale de championnat là. Les gars, on va s'intéresser un peu du coup au matos dont dispose Ernesto Valverde. On parlait du directeur sportif, je suis allé pour préparer l'émission, évidemment me renseigner un petit peu sur les mouvements qu'il y avait eu cet été à Bilbao. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les métiers planqués, il y a Pénélope Fillon et il y a lui. Hein. Parce que dans les départs, tu n'as pas un départ, tu n'as pas une vente, tu n'as que des transferts libres et des fins de prêt. Et dans les arrivées, tu n'as que des arrivées libres ou des fins de prêt aussi. Donc on est sur une balance à 0 euros pour cet été. Mais il y a quand même eu un petit peu de mouvement dans l'effectif. Et on va revenir, du coup, comme vous avez l'habitude, un peu sur, on va dire, l'équipe type de Bilbao qui joue cette saison. Qui veut commencer, les gars, par le gardien qu'on connaît bien, parce qu'on l'a croisé une ou deux fois à l'international?
Ouais, je pense que c'est peut-être pas le joueur sur lequel on peut passer le plus de temps, puisqu'il est quand même assez connu. C'est Unai Simon, qui est gardien du club depuis assez longtemps, depuis le départ de Kepa, je crois. Gardien titulaire de l'équipe d'Espagne depuis au moins deux grandes compétitions, au moins depuis l'Euro 2021. Voilà, un très bon gardien sur sa ligne, qui a plutôt un bon jeu de relance au pied. Une vraie certitude, en tout cas, sur le plan national et même international, on peut le dire. Je pense que c'est facilement un des 15-20 meilleurs gardiens du monde, peut-être 15 même plutôt. Voilà.
Et puis du coup, les gars, on va passer... On va passer à la ligne de défense où ce que je disais en déconnant, il s'est pas passé grand-chose cet été. Il y a quand même eu le départ d'Inigo Martinez qui est un vrai pilier de cette défense centrale de Bilbao. On pouvait s'interroger qui l'a remplacé, qui commence, comment elle s'organise la défense de l'Athletic Club.
Ils l'ont pas vraiment remplacé à proprement parler, comme tu disais, il n'y a pas eu vraiment de gros transferts, donc ça s'est fait de manière assez stable. On a d'un côté deux titulaires qui se démarquent, ça va être Heitor Paredes, qui a que 23 ans, qui est un produit formé au club, qui a passé toute sa formation au club entre 2010 et 2019 et qui est arrivé récemment en 2022. Et à ses côtés, il va y avoir aussi Dani Vivian, qui a 24 ans. Donc finalement, c'est une charnière assez jeune, comparée, si on la compare au reste de l'équipe, finalement. Et lui, il a joué 3 ans pour la réserve avant d'intégrer l'équipe première seulement en 2020. Donc moi, ça me fait penser, quand je vois tout l'effectif, tu me diras ce que tu en penses, Val, mais c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui finalement gravissent les échelons avec, en passant par la formation ou en passant par le club avant ou que ce soit par l'équipe B. Donc ça, c'est assez intéressant.
Ah bah c'est typique du club, hein, tous les... Le problème, c'est que quand tu recrutes des joueurs qui sont que du Pays Basque, à un moment, tu es obligé d'avoir
un bon centre de formation
et de détection. Donc forcément, l'Athletic Bilbao, étant le plus grand club du Pays Basque, t'as tous les joueurs qui jouent au club sont quasiment tous passés par le centre de formation à un moment ou un autre. Il y en a un autre d'ailleurs. Vas-y.
Ouais, non, je voulais pas d'interrompre, je voulais juste préciser pour nos auditeurs que la petite différence aussi en Espagne, c'est que les équipes B, les équipes réserves des clubs peuvent jouer jusqu'en deuxième division espagnole. C'est pour ça qu'il y en a pas mal de joueurs qui peuvent avoir le statut pro en restant dans les équipes B, y rester, même si l'équipe B de l'Athletic, pour le coup, est en troisième division. Mais ils ont cette possibilité-là qui fait qu'il y en a certains qui restent dans les équipes B.
Moi, ce qui me marque plus sur ce 11 qui se dégage, alors 11 peut-être un petit peu plus que 11 parce qu'il y a plein de joueurs qui tournent, c'est les profils des gars qui sont vraiment des profils. Aujourd'hui, tu as une moyenne d'âge qui est une des moyennes d'âge les plus élevées du championnat. Je pense à un joueur, par exemple, alors les latéraux, on peut en parler parce qu'on était sur la ligne de défense. Les latéraux, c'est De Marcos qui est là depuis 2009, qui est un très bon joueur, qui a aujourd'hui 34 ans, qui était essentiel l'année dernière, notamment dans le dispositif de Valverde, qui est encore important cette année. Et Lécué, qui est un joueur qui a 30 ans, qui n'a jamais eu véritablement... Enfin, il est là depuis longtemps aussi, il est là depuis 2016 au club, je crois, qui n'a jamais été un joueur transcendant, qui n'a jamais été un immense joueur. À la manière, un petit peu aussi de son remplaçant, Yuri Berchiche, qu'on a vu au PSG il y a quelques années, qui ne sont pas des joueurs fantastiques, qui sont des joueurs qui font le boulot. Et moi, c'est ce que je retiens. Alors là, je parle des défenseurs, mais c'est ce que je retiens un petit peu sur toute cette équipe. Titulaire au milieu de terrain, bon là il s'est blessé, mais Ruiz de Galarreta, 30 ans, même profil que Lécué. Il y a Ander Herrera qui a eu une carrière peut-être un petit peu plus internationale, mais pareil pour Dani Garcia, 33 ans, Mikel Vesga, 30 ans, Raúl Garcia, 37 ans. Tout ça, c'est des joueurs qui jouent régulièrement aujourd'hui à l'Athletic Bilbao, qui sont pas des joueurs transcendants, mais qui sont aussi révélateurs de l'esprit un petit peu combattant du club et de l'identité aussi basque. C'est ça qui fait partie aussi de cette identité-là. C'est que les mecs, c'est pas des top joueurs, c'est des joueurs moyens qui ont des qualités techniques à l'espagnol, donc probablement supérieures à l'équivalent français. Mais voilà, c'est pas des joueurs exceptionnels. C'est des joueurs bagarreurs, c'est des joueurs qui vont au contact. Un peu à l'image aussi de ce qu'était l'Athletic Bilbao à une certaine époque. On sait que c'est un club qui a été fondé par les via l'immigration anglaise notamment, et qui s'est pas mal inspiré aussi du kick and rush qu'il y a eu en Angleterre dans les années 50 et dans les années 60. Donc voilà, c'est des joueurs un petit peu qui se... Alors je vais pas dire que c'est des joueurs...
Mais en fait, c'est un peu...
Mais c'est un peu ça, enfin, y a un peu l'idée, quoi.
C'est un peu comme on a dit, on dit souvent l'expression avec les potes, genre c'est, ouais, c'est le bon lui c'est le bon joueur de Ligue 1.
Ouais,
en fait, la Ligue Bilbao, il y a beaucoup de bons joueurs de Liga. Et en fait, pour les suiveurs du foot européen, tous les blases que tu as cités, c'est que des blases qui parlent à tout le monde. En fait, c'est des blases dont on entend vite fait depuis 10 ans, un article par-ci, un article par-là, un match. Et c'est que des mecs qui sont dans le paysage, qui font, comme tu le dis, pas d'étincelles, mais qui font largement le job. On va dire que peut-être que les mecs qui brillent un petit peu plus, ils sont plus sur la ligne offensive.
Et ouais, exactement. Et tout
et
ça,
encore, c'est aussi des vieux routiers, hein.
Alors là, quand même, il y a un petit peu plus de... Il y a des côtés un petit peu plus fancy, quand même. Mais tout ça pour dire que c'est aussi révélateur des qualités de Ernesto Valverde sur ce championnat-là, de réussir à faire de telles performances avec un effectif, entre guillemets, moyen.
Et après, ouais, par contre, pour partir sur l'attaque, Jules, tu le disais, là, c'est un peu le côté rafraîchissant de l'équipe, on va dire. C'est qu'on a des joueurs un peu plus jeunes. Alors, je peux commencer par le moins connu, qui est Ollane Sanset, qui a 23 ans et qui n'a connu que l'Athletic. Donc, c'est un numéro 10 assez technique et qui a des bonnes stats.
Et le moins connu est peut-être le plus talentueux.
Ouais, c'est ça.
C'est la deuxième valeur marchande du club.
Après, derrière Nico, quand même. Mais ouais, donc t'as ce mec-là en numéro 10 qui fait du très bon boulot avec, ouais, on le disait, Nico Williams, qui lui, bah, je sais pas comment vous l'avez découvert, mais a crevé l'écran très vite, qui est arrivé en sélection espagnole très vite. Alors pas comme son frère qui, lui, joue pour le Ghana. Mais donc ouais, Nico Williams, qui est le petit frère d'Iñaki, qui a que 21 ans. Il est capable de jouer sur les deux ailes. Et cette saison, il évolue sur l'aile gauche avec son frère qui évolue sur l'aile droite. Donc, Iñaki pouvait être habitué à la pointe de l'attaque ces dernières années. Mais là, il a été repositionné par Valverde à droite. Et en fait, ce qui va tout simplement définir le jeu de Bilbao cette saison, car ça va être un jeu de transition très rapide, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de passages sur les ailes, beaucoup de centres, et qui finalement en fait, vont être permis par ces deux profils. Et pour distribuer en pointe à Gorka Guruzeta. Donc ça, c'est peut-être un nom qu'on connaît moins, nous, en France. Mais il a 27 ans, il est formé au club, et il a joué entre 2015 et 2020 pour l'AB, encore une fois, un autre joueur qui a joué pour l'AB. Et il est revenu en 2022 au club, et c'est un retour qui s'avère payant, puisque cette saison, il en est quand même à déjà 8 buts en 17 matchs, ce qui est autant qu'Iñaki.
C'est typiquement le genre de joueur qui a pris son mal en patience en équipe B pour faire des performances et attendre de monter tranquille à l'étage du dessus. Vas-y, Val.
Ouais, je voulais juste revenir sur les frères Williams, parce que c'est quand même deux profils complètement différents. Nico Williams, c'est un vrai dribbleur, un mec qui bouffe un peu la ligne, qui va vraiment provoquer sur son côté et qui va aussi amener beaucoup de centres, ce qui est assez rare en fait, dans les ailiers modernes qui ont beaucoup plus tendance à rentrer intérieur, à frapper, etc. C'est un des joueurs qui sentent le plus de Liga, Nico Williams. À la différence de son frère Iñaki, qui est lui beaucoup plus un joueur, comme tu disais, Zach, qui a aussi l'habitude de jouer en pointe et qui sait partir de son aile pour aussi rentrer intérieur et proposer des solutions dans les demi-espaces ou entre les lignes. Donc voilà, c'est deux joueurs complètement différents. Peut-être aussi parce que Nico Williams est plus talentueux. Ouais.
Ouais. Et il est capable d'arriver dans la surface pour essayer de conclure. Tu le vois beaucoup repiquer pendant les matchs dans l'axe.
Ouais, et une des forces, je trouve, de Nico aussi, c'est qu'il est quand même très à l'aise avec les deux pieds, ce qui fait qu'il est très imprévisible quand il déborde. Et c'est sûr que c'est un sacré talent. À voir si, comme son frère, il va rester à Bilbao longtemps ou s'il va finir par céder aux sirènes du football européen. Bon, les gars, on a bien parlé du coup de l'effectif avec tous ces vieux routiers. Avant de se projeter dans la saison avec vous et avec Ruben de l'Athletic Club, on va avoir une petite chronique Père Castor de Val qui va nous parler un peu mieux de cette enceinte mythique de San Mamés, là où évoluent les joueurs.
Ouais, je voulais terminer cette émission avec une rapide chronique sur le stade mythique de l'Athletic Club, donc la cathédrale San Mamés, comme on la connaît bien. Alors, on l'a dit, le stade a été inauguré en 1913 et le club entretient depuis plus d'un siècle le caractère assez solennel qu'il y a autour de cette enceinte. Alors, intéressons-nous donc à l'origine de son nom, San Mamés, un nom choisi en fonction de la proximité du stade avec un établissement qui est nommé la Misericordia, qui est un sublime orphelinat qui a été reconverti par la suite en maison de retraite et dans lequel on trouve une petite chapelle. Cette chapelle abrite San Mamés, donc un jeune martyr qui, selon la légende, fut jeté dans la fosse aux lions par l'empereur Aurélien pour le punir de ses péchés. Et San Mamés aurait finalement réussi à s'en sortir en domptant ces fameux lions qui se prosternèrent devant lui. Et c'est donc la raison pour laquelle le stade a été nommé la cathédrale, pour la différencier de l'orphelinat San Mamés, situé à proximité donc, et que les joueurs de l'Athletic sont surnommés les Leones, les lions en espagnol, là encore en hommage à la légende. Un aspect solennel qu'on retrouve aussi dans l'histoire de ce stade, puisque les supporters rendent très régulièrement hommage à Rafael Moreno Aranzadi, plus connu sous le nom de Pichichi, qui inscrit le premier but de l'histoire du stade en 1913, avant de donner son nom, comme on le connaît aujourd'hui, au trophée de meilleur buteur du championnat d'Espagne. Et c'est suite à son décès prématuré à l'âge de 29 ans seulement à cause du typhus, que les supporters décidèrent de l'ancrer dans la mémoire du club en lui construisant une statue dans la tribune principale du stade. Et depuis, à chaque fois qu'une équipe se rend pour la première fois à San Mamés, le capitaine de l'équipe adverse donc vient déposer juste avant le coup d'envoi une gerbe de fleurs devant la statue en honneur aux joueurs et évidemment accompagné par le capitaine de l'équipe de l'Athletic Club.
Le stade, à l'époque, qui ne faisait que 7000 places, va grandir avec le club. Au moment des premiers succès du club dans les années 30, le stade est agrandi pour accueillir 10 000 personnes. Mais c'est surtout dans les années 50 qu'il va véritablement se transformer avec la création de cette fameuse arche au-dessus du stade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos du stade qui était évidemment magnifique. Et qui était cette arche qui était évidemment assez révolutionnaire pour l'époque. Elle permettait de soutenir une partie du stade, notamment la place de colonne qui réduisait considérablement la visibilité et le nombre de places disponibles. Et donc, cette innovation en 1953 a permis au stade d'accueillir près de 40 000 spectateurs. Et donc, après avoir accueilli plusieurs matchs de la Coupe du Monde 82, c'est au début des années 2000, sous l'impulsion du président du club Javier Uria et avec l'accord des socios, qui est lancé un projet de nouveau stade. Et c'est comme ça qu'en 2013, le mythique stade de San Mamés est détruit et remplacé par sa version 2.0, le San Mamés Barria, construit juste à côté du premier et qui sera ensuite détruit. Alors évidemment, malgré l'aspect ultra moderne du nouveau stade qui répond à toutes les exigences de l'UEFA et qui est d'ailleurs plus un complexe sportif de 53 000 places avec 4 sous-sols, des salles de sport, des centres d'innovation, des tribunes VIP, etc. etc. Malgré tout ça, le club a quand même réussi à perpétuer les traditions en important la fameuse statue du Pichichi et en réinstallant la fameuse arche du stade sur les terrains du centre d'entraînement du club.
Merci beaucoup Val. Du coup les gars, on va passer comme d'habitude avec chaque club dont on parle, on va passer aux projections. Comment vous les voyez? Vous cette année, et puis évidemment il y aura Ruben qui nous parlera aussi de comment il les voit cette année et à long terme. Vous, je vais juste vous demander pour la fin de saison parce qu'on n'est pas assez éclairé pour savoir ce qui va se passer.
Et ben moi je ne sais pas Jules, je ne sais pas comment me projeter par rapport à cet Athletic Club. C'est ce qu'on dit
c'est
tout
dur
à l'heure,
de se projeter par rapport à la Liga déjà.
Ouais bah déjà. Bah,
en fait, tu regardes tous les week-ends surtout.
Ouais, mais en fait, je pense qu'ils arrivent à. Aujourd'hui, je pense qu'ils arrivent à cette position de cinquième au classement parce que Valverde a trouvé l'alchimie avec ces clubs-là et une alchimie que le club distille depuis des décennies avec des joueurs très axés sur l'identité basque, etc. Qui sont aussi des joueurs, on ne l'a pas précisé, mais qui sont plutôt bien payés pour le coup. Le Bilbao, c'est quand même un gros club, c'est quand même 135 millions d'euros de budget. Et évidemment, pour pouvoir conserver ces joueurs par rapport à la concurrence, ils sont aussi obligés de surpayer. Ce qui est d'ailleurs un objectif du secrétaire général aujourd'hui, c'est de réussir à ramener les salaires à des niveaux normaux par rapport au championnat espagnol.
Oui, et puis après. Tu me diras, si tu dépenses pas 70 millions de transferts chaque été, ça te laisse de l'argent pour la masse salariale.
Voilà, exactement. Mais donc voilà, c'est le travail d'Ernesto Valverde, insufflé par justement toute cette idée, cette identité basque. Après, moi, j'ai du mal à me projeter parce que c'est ce que je vous dis, l'effectif, il y a des joueurs moyens. Moi, tu me l'as dit comme ça, je les cale entre la 8e et la 10e place dans le ventre mou. Aujourd'hui, vu le niveau de la Liga qui est moins élevé que celui d'il y a quelques années, mais un petit peu mieux que celui d'il y a 2-3 ans, je pense. Peut-être que ça surperforme un peu, mais même quand tu regardes les chiffres, ils ne surperforment pas vraiment, puisque tu regardes les XG concédés, les XG marqués, c'est à peu près ça correspond à peu près à ce qu'ils devraient faire. Donc, je ne sais pas où me projeter. C'est probablement une des bonnes équipes de Liga cette saison. Il y a eu des vrais bons matchs. Il y a eu un match contre le Rayo Vallecano où ils ont gagné 4-0 avec un jeu vraiment très léché. S'ils arrivent à accrocher une place européenne, ce sera très bien. Et sur le long terme, pareil, j'ai du mal à me projeter. Je vais laisser la parole à Ruben là-dessus qui aura peut-être plus de vision que moi.
Toi, Zach, un peu pareil que Val?
Bah écoute, là, je suis devant le classement du coup pour aider un peu plus Val à se projeter. Et bah moi je les vois bien, là je regarde et je les vois bien finir 6e, tu vois, parce qu'il y a le trio qu'on connaît, donc Real, Barça, Atletico qui va pas bouger. On a Gérone qui va peut-être nous faire la Leicester de 2016. Et après, moi, je vois quand même bien la Real Sociedad, tu vois, leur passer devant parce que ça joue quand même très bien cette année. Et j'avoue que je suis pas serein, moi, pour le 8e contre le PSG. Mais donc voilà, et en fait, derrière aussi, alors ils jouent super bien. Là, moi, j'ai vu le résumé de Bilbao contre l'Atlético Madrid. Alors, ils leur roulent dessus de la première à la 90e minute. Je vous invite à le voir, c'est assez énorme. Mais ce classement s'explique peut-être aussi par les contre-performances d'autres clubs. On a quand même Villarreal qui est 15e de Liga, on a Séville qui est 13e. Bon, Valence, on est un peu habitué maintenant, mais qui est que 10e. Donc, ça explique aussi peut-être ce classement.
Après, tout ça, c'est des clubs qui ont des difficultés financières, etc., qui sont beaucoup moins stables que l'Athletic Bilbao, qui, pour le coup, est hyper régulière dans ses résultats.
C'est ça. Mais des clubs qui aussi, parfois, parviennent à être, tu vois, 4e, 5e de Liga.
Oui, oui.
Mais après, ouais, non, sur le long terme, j'ai aucune idée comme Val.
Oui, mais le long terme, on va plutôt laisser Ruben nous en dire un peu plus.
Donc moi, bah, je pense qu'il faut une qualification européenne et dans l'état des choses, en tout cas là où on est, il faut lutter pour une place en Europa League, évidemment, ouais, pour l'instant 5e et sixième place. Effectivement, pour l'instant, on n'est pas loin de la Ligue des Champions, mais voilà, il y a quand même un gros rythme qui est mis devant, même si le Barça et l'Atlético sont peut-être un peu plus prenables par moment. Moi, je prendrais évidemment une qualification en Ligue des Champions, mais en étant tout à fait honnête et je pense... et même objectif, voilà, je pense que l'Europa League, c'est ce qu'il nous faut viser. Et à moyen terme, bah, disons que c'est une équipe, voilà, qui doit plus que le faire de façon ponctuelle, qui doit se rassaler dans la zone européenne, tout simplement. On sait qu'il y a beaucoup de blagues, on va dire, dans la communauté autour du fait que la finale de l'Europa League, je crois 2024-2025, il me semble, va se jouer à San Mamés, et voilà, beaucoup de supporters rêvent un peu d'un Athletic qui irait en finale cette saison-là, donc pourquoi pas, honnêtement. Mais moi, en tout cas, voilà, je pense que c'est une équipe qui a de la qualité, qui évidemment a des faiblesses aussi, mais qui a aussi, voilà, je crois, beaucoup de bonnes choses, et surtout, voilà, comme je le disais, avec le travail qui est en train d'être fait, on retrouve un club quand même qui est compétitif, et donc voilà, dans les résultats, c'est un club qui doit tout simplement multiplier les qualifications en Europa League, les enchaîner, pourquoi pas viser la Ligue des Champions à un moment ou un autre, évidemment, mais voilà, c'est sûr qu'il faut retrouver en tout cas un certain rythme de qualification comme ça avait pu l'être il y a quelques années encore, et puis voilà, continuer évidemment d'attirer des joueurs et de développer le centre de formation qui est comme l'âme du club.
De ce qu'on a dit de l'effectif, avec le profil du coach qui est quand même un vieux routier, les joueurs qui savent faire et machin, je pense que c'est solide. Ça ne m'étonnerait pas que ça finisse entre la 4e et 6e, parce que, comme dit Val, vu l'état de Séville, Villarreal et tout, les ça ne reviendra pas.
C'est vraiment un effectif de camionneur, hein, les mecs, ils ont des kilomètres dans les jambes. Hein.
Bah ouais, c'est ça. Et donc, tu as du talent devant, donc en fait, il n'y a pas de raison que ça s'effondre. Donc je pense que s'ils tiennent bien la barre, moi je pense que ça reviendra pas derrière. Donc ils vont finir, je pense, entre la 4e et la 7e, et ce sera déjà très bien pour ce club-là. Avant de conclure, je voulais juste, on le fait plus dans l'émission, mais pour une fois que j'en avais un, j'encourage tout le monde à Théma, la série qui s'appelle Patria sur Canal+, qui est une série qui est sortie il y a 5-6 ans, mais c'est sur MyCanal, et c'est vraiment très cool pour ceux qui veulent en savoir plus sur le conflit basque. C'est une série à l'époque sur les indépendantistes, et ça permet d'en dire un peu plus, et non, moi j'y connaissais rien, et ça permet d'en savoir un peu plus sur ce conflit-là, et sur le pourquoi du comment, et à quel point ça déchire des familles dans cette région-là. Vas-y Val, tu veux dire, si tu fais une
Rocco, je me permets d'en faire une, puisqu'il y a eu une interview dans Nosotros, qui est évidemment un excellent site pour parler football, en plus on les avait interviewés l'année dernière et tout, c'est vraiment super sympa ces gars-là. Une interview d'Anthony Bobin, je ne sais pas comment on dit, qui était l'ancien responsable de la méthodologie du club de Bilbao, donc le mec qui était en charge de toute la formation et de l'identité que veulent transmettre les éducateurs dans le centre de formation de Bilbao, qui n'est plus au club aujourd'hui, mais qui a fait une super interview de Nosotros, assez longue à lire, qui revient sur toute l'identité, etc. Donc je la recommande aussi.
Ok, bon bah merci Val de cette petite reco. Zach, tu veux en faire une ou tu t'en bats les couilles peut-être?
Non, bah, alors déjà, moi, ce qui me passe en tête, c'est j'ai vu le docu Arte hier sur Robert De Niro, qui est génial. Donc, rien à voir avec le foot, mais je recommande vivement. Voilà. Et non, sinon, pour revenir sur le foot, parmi les sources que j'ai cherchées, je suis tombé sur un super article du Corner. Donc, je voulais le souligner parce qu'à chaque fois, c'est une qualité d'article qui est assez. Ouais, c'est quand même une qualité d'article à chaque fois qui est assez géniale, super bien écrite. Donc, voilà, un petit clin d'œil et voilà.
Bon les gars, merci beaucoup pour cette émission. C'était un peu particulier de parler du club de Bilbao parce que c'est un autre fonctionnement que les autres clubs, mais c'est aussi pour vous montrer que certains clubs marchent différemment malgré ce vilain foot business qui bouffe toute l'Europe. En tout cas, c'était un kiff de faire cette émission, c'était un kiff de faire cette année de Poteau Carré, la troisième. Donc merci à tous de continuer à nous suivre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en famille et on se revoit à la rentrée avec un Poteau Carré qui aura un petit peu bougé. Allez, ciao.